semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 21 juillet, ravi de vous retrouver. Nous allons revivre évidemment 7 jours d'actualité avec évidemment d'abord ceci.
Le pénalty qui va être tiré très très rapidement par Antoine Griezmann. Le coup de sifflet, il prend son élan, le buteur français. C'est parti, c'est dedans! Et 2-1 pour l'équipe de France! Le pénalty transformé par Antoine Griezmann, le contre-pied parfait! Le ballon tiré sur la droite de Subasic qui était parti côté gauche. L'équipe de France mène 2-1 face à la Croatie. Antoine Griezmann récupère au niveau du point de pénalty derrière pour prendre Pogba. La frappe de Pogba, elle est contrée, il a une deuxième chance, la frappe. Elle est belle! Subasic sur son côté droit. La France met 3-1 face à la Croatie dans cette finale de Coupe du Monde.
Attention, attention, Mbappé, la frappe de Mbappé. Et but, le but de Kylian Mbappé. Extraordinaire. La frappe à terre à 25 mètres. Et le bon français qui sème. Parce que là, ça fait 4-1. L'équipe de France est en route.
Les Bleus sont sur le toit du monde.
Nous sommes les Français.
Nous sommes les Français.
Et nous avons gagné.
Et nous avons gagné.
Évocation de bons moments, c'est dit que l'enthousiasme d'Antoine Grenier et d'Olivier Prou qui vous ont fait vivre sur notre antenne dimanche la finale de la Coupe du Monde et la victoire des Français face aux Croates, 4-2 finalement, nous allons bien sûr y revenir. Une victoire au retentissement planétaire, écoutez par exemple ce qu'a dit mardi incidemment un certain Barack Obama lors d'un hommage à Nelson Mandela mardi à Johannesburg.
Une politique de la peur et du ressentiment est en train d'apparaître et nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Mais je crois en la vision de Mandela, une vision d'égalité, de justice et de liberté pour une démocratie multiraciale construite sur la promesse que les hommes sont nés égaux et qu'ils possèdent les mêmes droits inaliénables. Et quand cette idée est partagée, les bénéfices pratiques sont immédiats. Car la société peut se nourrir des talents et de l'énergie de tous. Si vous en doutez, demandez à l'équipe de France de football qui vient de remporter la Coupe du Monde. Beaucoup de ces gars ne me semblent pas très gaulois, et pourtant ils sont français.
But they're French. They're French.
Une semaine d'actualité donc, merci de votre fidélité, un magazine que vous pouvez aussi écouter sur notre site www.rfi.fr et sur l'application RFI Pure Radio.
Une semaine d'actualité.
Et notre invité, notre confrère Sédic Kaba, qui est chroniqueur au site Monde Afrique. Bonjour Sédic.
Bonjour Pierre-Edouard.
Ravi de vous retrouver à ce micro. Vous brillez, vous étiez encore dans le match en écoutant ces instantanés de la retransmission du match de la finale dimanche dernier.
Vous étiez encore dedans. J'ai été happé comme tous les téléspectateurs, les auditeurs par cette finale de la Coupe du Monde. D'ailleurs, j'ai suivi tout le déroulement de cette Coupe du Monde, depuis les phases éliminatoires jusqu'aux phases préliminaires, jusqu'aux phases de qualification. Et j'avoue que des fibres de ma jeunesse me sont revenues, puisque moi-même j'ai joué au football il y a longtemps. Mais
à quel poste?
Ça a été, moi j'étais au milieu de terrain droit. Mm-hmm. C'est à l'époque le 8, c'était le numéro 8 qui correspondait. et j'ai retrouvé moi-même beaucoup d'instinct de footballeur de ma jeunesse, et j'ai eu grand plaisir à regarder ce match, de très très beaux matchs comme la finale qui était une finale très intense
avec beaucoup de
buts, beaucoup de suspense, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de technicité, beaucoup d'expertise, et finalement l'équipe de France a remporté avec beaucoup de brio cette coupe, et elle a réussi à construire une euphorie, presque même une hystérie collective, on a vu quasiment des scènes d'hystérie après la victoire de la France.
Alors beaucoup d'auditeurs nous ont écrit, ravis, par exemple Thierno nous écrit ceci: toutes mes félicitations à l'équipe de France pour cette glorieuse victoire, les Bleus ont une très bonne équipe et un entraîneur génial, la France est le pays le moins raciste en Europe et elle bénéficie de l'immigration. C'est votre avis?
Oui, je pense que...
Le pays le moins raciste en Europe.
Je pense que, de par sa composition, il y a beaucoup de joueurs qui sont d'origine africaine, qui sont d'origine maghrébine, qui sont... Et il y a une, comme a dit Obama dans le leçon qu'on a suivi, l'équipe de France a été constituée avec tous les talents, quelle que soit leur origine, quelle que soit, avec simplement le fait qu'ils soient français. Et je pense que ça peut aider à mieux vivre ensemble, ça peut aider. Les gens qu'on a vus exulter sont de différentes origines. On a vu des gens de banlieue à côté des gens qui vivent dans le 8e arrondissement. On a vu sans doute des membres des forces de l'ordre aux côtés de jeunes qui habituellement se regardent en chien de faïence. Donc il y a cette diversité de l'équipe de France qui, à mon avis, peut contribuer au mieux vivre ensemble. On a entendu beaucoup de gens répéter le black blanc beurre. C'est ce slogan qu'on avait déjà entendu en 1998.
Oui.
Donc ça peut effectivement aider, participer à la tolérance, au mieux vivre ensemble, puisque cette équipe a montré qu'en travaillant ensemble, quelles que soient ses origines, on peut avoir un résultat aussi satisfaisant, un résultat aussi brillant qu'une victoire en Coupe du Monde.
Alors la France, championne du monde pour 4 ans, à l'issue d'une compétition que beaucoup disent extraordinaire, en fait une très bonne Coupe du Monde. Je vous propose de partir pour Moscou, Sédic, et revenir sur cette compétition qui a réussi à donner un mois durant une autre image de la Russie à Moscou. Daniel Valo.
C'est un constat unanime chez les supporters étrangers venus en Russie. Cette Coupe du Monde est une réussite éclatante. Pour Nicolas, supporter des Bleus, il suffit d'ailleurs de comparer ce mondial à l'Euro 2016 organisé en France.
Tout est x10, l'organisation partout, dans les transports, les métros, les trains, les gens dans la rue, il y a 40 000 points d'information dans Moscou. Tout est vraiment, c'est beaucoup mieux fait qu'en France.
Opération de séduction réussie pour le Kremlin. Les supporters étrangers vont rentrer chez eux en évoquant un pays ouvert et accueillant, bien loin de l'image négative qu'ils avaient de la Russie.
Ce qu'on dit depuis que Poutine est au pouvoir, c'est un peu une dictature. On a l'image comme ça de la Russie, alors que c'est un super pays.
Donc vous avez une image différente maintenant ?
Totalement.
Pour une écrasante majorité de Russes, le succès de ce mondial est une source de fierté. Cette habitante de Moscou en est ravie. C'est bien la preuve, dit-elle, que les médias étrangers véhiculent une information tronquée au sujet de la Russie.
Plus les gens viendront ici et mieux ce sera. Toutes les choses négatives que l'on dit sur nous à l'étranger, tout cela disparaît lorsque les gens viennent ici, lorsqu'ils voient notre pays et la façon dont on les accueille.
Alors bien sûr, à Moscou, tout le monde n'est pas dupe de cette opération de communication réussie et certains s'inquiètent déjà de voir cette parenthèse enchantée se refermer dès que les supporters étrangers auront quitté le territoire russe.
Vous écoutez RFI, vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Sédic Abba. Il faut préciser que cette finale dont nous parlions à l'instant a été émaillée d'incidents avec l'irruption de 4 Pussy Riot qui sont apparus sur le terrain, qui ont vite été chassés par la police, mais elles ont écopé de 15 jours de prison. Donc les mauvaises habitudes ont vite repris le dessus, si je puis dire, Sédic. La Russie a réussi à donner une autre image, selon vous ?
Non, je pense que la Russie et Poutine ont réussi un immense coup de communication à travers ce mondial. L'organisation logistique a été totalement parfaite et 1 million de visiteurs sont venus en Russie, ont vu une haute Russie, puisque il n'y a pas longtemps encore, le pays projeté l'image d'un pays totalement fermé, avec des opposants politiques qui sont mis en prison.
Dont un faisait la grève de la faim pendant la compétition, d'ailleurs.
Absolument, ouais. Absolument. Donc, avec aussi des atteintes aux droits de l'homme. Et cette réussite, ce succès de la Coupe du Monde, a réussi à donner une autre image du pays, et les visiteurs qui sont venus sont repartis justement avec une autre image. C'est à la fois un coup double envers la communication extérieure, mais aussi, au plan interne aussi, beaucoup de gens qui voyaient déjà en Poutine celui qui a remis la Russie dans le jeu politique mondial, celui qui a donné à la Russie la place qu'elle devait avoir. Ce talent de nationalisme aussi a été conforté par ce succès de la Coupe du Monde, puisque les Russes vont reprendre confiance en se disant que leur pays est capable de recevoir un événement de cette dimension, alors que dans quelques années, les États-Unis auront besoin de se mettre avec le Mexique et le Canada pour organiser ce que la Russie a réussi à organiser à elle seule.
Alors justement, on va parler de la Russie et des États-Unis dans un instant.
Sept jours dans le monde.
Alors, direction Helsinki, Cédric, où lundi, Vladimir Poutine et Donald Trump se sont retrouvés pour un sommet, comme on dit, et un couac côté américain, un gros couac même, puisque le président Trump a affirmé lors de la conférence de presse de fin de rencontre que Vladimir Poutine avait raison de dire que la Russie n'avait pas cherché à influer sur le résultat de l'élection présidentielle outre-Atlantique avant, lors de son retour aux États-Unis, de revenir sur ses propos. Ce n'est pas simple. À San Francisco mardi, Eric De Salve.
Devant les caméras de la Maison Blanche, Donald Trump explique dans un laborieux rétropédalage avoir découvert l'ampleur de la polémique à son retour d'Helsinki. En rentrant, j'ai demandé « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème ?» raconte-t-il. Trahison, prestations honteuses, erreurs tragiques, ses propos tenus devant une puissance hostile, désavouant ses propres services de renseignement, ont en effet déclenché un malaise inédit et une indignation unanime jusque dans son camp à Washington, de la part de ténors républicains d'ordinaire peu enclins à le critiquer. J'ai donc relu le script et visionné la vidéo de ma réponse, dit Trump, et j'ai réalisé qu'une petite clarification s'imposait. Après avoir refusé la veille en présence de Vladimir Poutine de reconnaître l'ingérence russe dans la campagne de 2016, le président américain fait finalement marche arrière le lendemain et plaide le lapsus et l'oubli d'une double négative. J'ai dit « serait » au lieu de « ne serait pas », assure Trump tête baissée en lisant son texte. En clair, s'il a bien dit « je ne vois aucune raison pour laquelle la Russie se serait ingérée dans l'élection américaine », il fallait entendre « je ne vois aucune raison pour laquelle la Russie ne se serait pas ingérée ». J'accepte les conclusions de nos services selon lesquelles la Russie a interféré dans l'élection de 2016, ajoute Trump, avant de s'accorder en fin de journée un auto-satisfait sur Twitter. Le meeting avec le président Poutine a été un grand succès, écrit le président américain, sauf dans les médias fake news.
Et le président américain envisage une autre rencontre avec Vladimir Poutine à Washington cet automne. Le Nicaragua maintenant, mardi, au moins 2 personnes ont été tuées dans l'assaut lancé par les forces pro-gouvernementales contre Masaya, la ville la plus rebelle du pays, secouée, on le sait depuis des mois, par des manifestations violemment réprimées qui ont fait des centaines de victimes, Marie Normand, ce jour-là.
Sur les enregistrements qui nous parviennent, les habitants de Masaya témoignent de rafales d'armes automatiques et de tirs d'armes lourdes en provenance des quatre coins de la ville. Pour l'avocate Juanita Jiménez, dont la famille se trouve sur place, la répression est encore montée d'un cran mardi. Il n'y a aucune limite. Sur les radios officielles, ils diffusent des chansons où ces gens sont désignés comme des terroristes. Une série de messages qui encouragent les actes criminels des forces pro-gouvernementales contre la population civile.
Pour Paul Oquiste, le ministre nicaraguayen chargé des politiques nationales, l'avancée des forces pro-gouvernementales est une bonne chose. La promesse, dit-il, d'un rapide retour à la normale.
La bonne nouvelle en provenance du Nicaragua est que le coup d'État a échoué. C'est une très bonne nouvelle car cela va permettre le dialogue, ce dont les putschistes ne voulaient pas.
Une opération qui intervient au moment où la communauté internationale réclame l'arrêt de la répression. Mardi, le représentant du Vatican au Nicaragua a réclamé une trêve, ainsi que le retour du gouvernement et de l'opposition à la table des négociations.
À suivre évidemment dans nos journaux. À noter aussi dans l'actualité internationale l'adoption par le Parlement israélien d'un projet de loi controversé qui définit Israël comme, je cite, « l'État-nation du peuple juif », un texte accusé d'officialiser des discriminations envers les Arabes israéliens. Suite d'une semaine d'actualité, toujours avec vous, Cédric Kaba, toujours aussi attentif en écoutant tous ces sujets. Alors, ces cafouillages de Donald Trump vous inspirent un commentaire ?
Ah oui, non, il y a... des choses d'une extrême gravité qui se passent aux États-Unis. Et il n'y a pas de précédent. Il n'y a jamais eu de précédent où le président des États-Unis, à l'étranger, devant un chef d'État qui a une rivalité historique, traditionnelle, même héréditaire entre Américains et Russes, entre Américains, l'Amérique et l'Union soviétique à l'époque, ou la Fédération de Russie aujourd'hui, que le président des États-Unis désavoue les services de l'État. C'est une enquête du FBI, une enquête de la CIA qui a mis en évidence au moment même où les services fédéraux venaient d'inculper 12 officiers russes pour leur ingérence, que le président des États-Unis vienne reconnaître devant Poutine, dire que il n'y a aucune raison qu'il pense que les Russes se sont interférés dans le processus électoral. Ça, c'est d'une extrême gravité. Et le plus grave, c'est la tentative de rétropédalage, puisque c'est absolument caricatural que le président des États-Unis vienne s'asseoir pour essayer de faire comprendre aux gens. Et ça m'inspire un proverbe haoussa qui dit que si celui qui parle est fou, celui qui l'écoute n'est pas fou. Si le président Trump vient nous dire que non, voilà ce qu'il a voulu dire, si lui, il se trompe, nous, il ne peut pas nous vendre cette idée, il ne peut pas nous vendre son rétropédalage en disant qu'il a fait un lapsus. Et c'est d'autant moins crédible que on n'oublie pas que le président avait évoqué l'hypothèse de s'auto-amnestier dans l'enquête. Si l'enquête évoluait, il a demandé à des juristes, est-ce qu'en tant que chef d'État en exercice, je peux m'amnestier? Tout cela amène à considérer que justement il s'est passé quelque chose et que l'enquête continue de gêner Donald Trump.
Et vous avez vu, c'était hautement symbolique qu'au moment où il l'expliquait tout ça, il faisait ce rétro-pédalage dans la salle de réunion de la Maison Blanche, il y a eu une panne d'électricité.
Absolument.
Ça s'est jamais vu non plus, ça.
Absolument, une panne d'électricité aux États-Unis.
La Maison Blanche.
À la Maison Blanche en plus, pas n'importe où aux États-Unis. Tout cela conforte l'idée que Donald Trump, ce que Donald Trump avait dit devant Poutine, c'est ce qu'il pense véritablement.
Ouais.
C'est parce qu'il y a eu une levée de boucliers dans son propre camp, des gens qui l'ont toujours soutenu.
C'est ça, c'est aujourd'hui qui l'a incité à faire ce rétropédalage. C'est-à-dire que même au sein de son propre camp, les républicains, même si on sait qu'il a pris ses distances avec les républicains classiques, ça commençait vraiment à râler. Quoi.
Il y a parmi les républicains ceux qui ont toujours eu une posture critique envers Donald Trump. Mais cette fois, avec ce qu'il a fait, le camp de ceux qui le critiquent se sont éradiqués dans son propre camp. Des gens qui l'ont toujours soutenu jusqu'ici, qui ont toujours couvert ces dérives jusqu'ici, sont passés, ils se sont mis à le critiquer. Et je crois que ça l'a alerté, puisqu'il y a des échéances, ça l'a alerté et ça l'a amené à faire cet essai de rattrapage qui, de mon point de vue, n'en est pas un.
Il y a un auditeur qui nous écoute, qui écoute RFI et l'émission singulièrement, il y a une idée qui s'appelle Guy, qui se demande pourquoi, en fait, Trump adopte cette attitude face à Poutine. Et sous-entendu de cette question est clair, est-ce que Poutine a des informations sur Trump qui mettent le président américain en état de faiblesse?
Je le pense. J'ai pas la preuve, mais je pense que les Russes ont des éléments sur ce qui s'est passé exactement. On a parlé un moment d'événements Trump, l'homme d'affaires, qui a séjourné plusieurs fois en Russie et qui aurait pu être piégé par le Russe dans le cadre de son séjour en Russie. Ensuite, il y a aussi ce que la Russie a fait dans le cadre des élections. Les Russes savent quel rôle ils ont joué et jusqu'où ils sont allés, si Trump a pactisé avec eux, et ils ont des éléments de preuve. On ne voit pas un pays comme la Russie s'engager dans cette affaire et ne pas détenir les preuves. Ils ont des preuves, peut-être des enregistrements, peut-être même des images vidéo, et Trump sait ce que les Russes ont entre leurs mains. Donc il y a dans son attitude de ménager les Russes, d'éviter qu'ils en arrivent jusqu'à exposer. C'est clair qu'on n'est pas à ce stade, mais si jamais ils se fâchent avec les Russes, ils rentrent dans un conflit frontal avec les Russes, et les Russes sortent ce qu'ils ont entre leurs mains, ça pourrait totalement éclabousser sa présidence.
Alors descendons au sud du continent, en Amérique centrale, Tshisekedi, et parlons du Nicaragua. Quand le tombeur de Somoza, libérateur du Nicaragua, devient à son tour un dictateur.
Non, ça c'est vraiment c'est une comment dire, c'est une déchéance pour Daniel Ortega. Lui qui avait dit, qui avait promis le changement, lui qui s'est toujours présenté en révolutionnaire, un homme du peuple, du bas peuple, etc., qui en vient aujourd'hui à vouloir écraser son peuple, qui est dans une démarche absolument erronée. Et pensez aujourd'hui, en 2018, que la force peut suffire à régler un conflit politique ou un conflit social, je pense que c'est totalement être anachronique, c'est totalement passé de côté. Et Daniel Ortega, de ce point de vue aujourd'hui, je pense que son régime est en sursis. Penser qu'on peut par la force seulement, sauf si il s'avise et décide, comme l'encourage le Vatican, ouvrir le dialogue, trouver un compromis politique avec ses opposants, c'est la seule voie de salut. La répression n'amènera nulle part, sauf à endeuillés des familles nicaraguayennes.
En tout cas, c'est à suivre dans nos journaux.
Une semaine d'actualité.
Allons, continuons pour quelques minutes à être sur notre petit nuage, Sedi Kaba, et parlons de l'actualité française dominée largement, au début de la semaine en tout cas, avant que la politique revienne au galop, on va le voir, par la victoire de l'équipe de France de football, le champion du monde, donc désormais pour la deuxième fois, un pays en transe, en liesse. Évoquons, Sedi, qu'une dernière fois le match en tant que tel, la finale avec Olivier Pron à Moscou dimanche.
Un score fleuve comme on en avait plus vu depuis plus de 50 ans en finale de Coupe du Monde et surtout une deuxième étoile à coudre et à porter sur le maillot bleu. Voilà ce qu'il faut retenir de cette finale emballée par l'équipe de France au moment où on l'attendait le moins. Au début de la deuxième mi-temps, certes, les hommes de Didier Deschamps mènent 2-1 grâce à des buts de Mandzukic contre son camp et d'Antoine Griezmann sur pénalty, mais ils sont dominés outrageusement sur le terrain par des Croates plus techniques et plus volontaires. Et puis boum, deux fois boum en 5 minutes après l'heure de jeu, Paul Pogba puis Kylian Mbappé assomment les Vatreni qui à cet instant n'ont plus rien de flamboyant. À 4-1, l'affaire est entendue, même si une boulette d'Hugo Lloris offre la réduction du score à Mario Mandzukic et un peu d'espoir aux Croates. La France est donc championne du monde. La génération Griezmann, Mbappé, Pogba, Kanté rejoint 20 ans après celle des Zidane, Blanc, De Sailly et surtout Didier Deschamps, troisième homme dans l'histoire à remporter une Coupe du Monde comme joueur puis comme entraîneur après le Brésilien Zagallo et l'Allemand Beckenbauer.
Lundi, les héros de Moscou ont défilé un peu trop rapidement pour certains sur les Champs-Élysées, au cœur de Paris, dois-je le préciser, Pierre-Olivier.
Un tonnerre d'applaudissements s'élève au passage du bus de l'équipe de France. Les plus chanceux réussissent à apercevoir certains joueurs.
Mbappé, Pogba, Griezmann, j'ai envie de leur dire que longue vie à eux. Ils m'ont fait rêver, c'est pour ça que je suis sur les champs aujourd'hui là.
D'autres sont perchés sur des lampadaires ou des kiosques à journaux à plusieurs mètres du sol.
Ouais, on les a vus, ouais. Bon, juste ils nous regardaient en mode c'était cool et tout, ils avaient l'air guettes, ils avaient plus ou moins tous des t-shirts enlevés ou mitraviole ou quoi, mais non, c'était galerie, ils ont roulé hyper vite, en 3 secondes ils étaient passés.
Ça valait le coup ?
Ouais, ça valait le coup. Okay. Je me suis fait mal sur le kiosque pour une bonne raison.
Mais peu importe que les Bleus soient passés si vite, ce qui compte, c'est ce moment de bonheur partagé par toutes les générations.
Romeo, voilà ! Ouais, on est des supporters, nous, voilà !
Ils sont trop forts, c'est doux. J'étais pas né, moi, en 98, j'ai 14 ans. Je sais pas, c'est trop cool.
Et après une nuit de fête pour les plus grands, la voix est fatiguée, mais dans les yeux, deux étoiles qui brillent encore.
C'est simplement... je peux même pas décrire. Non, mais vraiment, c'est trop... Moi, je trouve ça trop cool quand même. Oh non, moi, je suis trop fier.
Une fierté partagée tout l'après-midi sur les Champs-Élysées par des centaines de milliers de supporters.
L'équipe a ensuite été reçue à l'Élysée, dont les jardins étaient occupés par des centaines d'enfants et d'éducateurs, membres des clubs d'origine des joueurs, champion du monde, Anthony Lattier.
Allons, enfants de la patrie.
Les champions du monde entonnent de même l'hymne national sur le perron de l'Élysée. Son locataire savoure. Emmanuel Macron n'a plus qu'à récolter les fruits de la victoire, incarnée par une équipe à l'image de la France qu'il promeut. Elle est jeune, elle a l'esprit de conquête et elle casse les codes. Une équipe de premiers de cordée à qui le président envoie un message.
N'oubliez jamais d'où vous venez. Et vous venez de là. Devant vous, il y a les clubs qui vous ont formés. Il y a des éducateurs qui n'ont pas compté leur temps. Il y a des parents qui n'ont pas compté leur temps. C'est ça la France. Et comme vous l'avez dit pendant toute cette coupe, vive la République et vive la France !
Emmanuel Macron célèbre la France du sacrifice et de la gagne. Paul Pogba et Benjamin Mendy mettent l'ambiance. Ils font chanter le public dans les jardins du palais. La disruption est partout désormais, se réjouit en sortant le porte-parole du gouvernement. Emmanuel Macron prend la pause avec les joueurs. Il touche la Coupe du Monde. C'est son gris-gris de l'été. Il en avait bien besoin.
Alors parmi tous les propos des Français heureux que RFI vous a proposé dimanche et lundi, un en particulier a retenu notre attention. Il résume bien le climat de ces derniers jours en France.
C'est un rêve en fait. Moi je me sens bien, moi je me sens heureux.
C'est la première fois qu'on voit les gens unis comme ça.
98, j'avais 12 ans. C'est mieux maintenant.
Ça fait du bien des victoires comme ça en ce moment ou quoi ?
De fou. Surtout dans les temps qui courent.
On a eu le problème en fait avec ça. On a tous des problèmes, tu vois. On a tous des problèmes, non ? Chacun a ses problèmes. Soit on est riche, pauvre, malade... Beau, moche, gros, et bien grâce à ça on oublie nos problèmes en fait.
Propos recueillis par Élie Abergel.
Sept jours en France.
Et nous sommes toujours en compagnie de notre confrère et ami Cédric Abba, chroniqueur au site Monde Afrique. On va revenir sur ce climat avant de parler d'une affaire qui touche Emmanuel Macron ces derniers jours. Récupération politique, d'évidence.
Oui, il y a absolument un souci de capter les dividendes de cette victoire de la part d'Emmanuel Macron. Il y a une opération de communication. Lui-même était dans les vestiaires à Moscou avec les joueurs. Et il y a une mise en scène. Il y a une théâtralisation de cette victoire. Les jardins de l'Élysée, ouverts aux jeunes de banlieue, ouverts aux clubs où ils ont été formés. Il y a un souci pour Emmanuel Macron de récupérer et de surfer sur cette euphorie nationale, sur cet enthousiasme national. Il y a, on le sent de sa part. Et comme il a été si bien dit, il y a une volonté de faire de cette Coupe du Monde un gris-gris qui le protège de certaines, parce que avant la Coupe du Monde, il y a quand même eu des événements politiques, il y a eu toutes les difficultés de faire adopter les textes, cette réforme de la SNCF qui a créé un bras de fer avec les syndicats, avec toutes les grèves qui ont suscité le mécontentement envers sa gouvernance, envers ses méthodes, etc. La Coupe du Monde, cette victoire est tombée à point nommé pour lui, mais comme on va le voir, ça n'a pas suffi à lui servir de gris-gris, parce qu'un bon gris-gris vous protège toute la vie. Mais là, je
là,
pense que
pas,
le gris-gris ne l'a pas protégé tout l'été.
Alors, c'est pas le cas, parce que comme on le sait maintenant, l'actualité française, c'est aussi l'ouverture par le parquet de Paris d'une enquête pour violence et usurpation de fonction qui vise un chargé de mission de l'Élysée, Alexandre Benalla, présent d'ailleurs avec les Bleus sur les Champs-Élysées du côté du service d'ordre lundi dernier. Alexandre Benalla, qui, coiffé d'un casque des forces de l'ordre, a frappé un manifeste à terre le 1er mai et agressait d'ailleurs une jeune femme, c'était à Paris, une affaire qui a pris de l'ampleur. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue hier matin, vendredi. Il est visé pour des faits de violence en réunion par personne chargée d'une mission de service public, d'usurpation de fonction, de port illégal d'un signe réservé à l'autorité publique et de complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection. C'est un chargé de mission à l'Élysée qui est inculpé de tout ça.
Absolument.
Qui est mis
absolument,
en examen absolument. Pour tout ça.
Non, ça c'est un scandale d'État. Je pense que c'est la première grande épreuve politique pour Emmanuel Macron. Qu'un homme qui lui est proche et on a eu la preuve de sa proximité absolue avec Emmanuel Macron.
Il a été son garde du corps, un de ses gardes du corps pendant sa campagne électorale.
Absolument. On le voit dans tous les déplacements du chef de l'État. On l'a vu l'accompagner dans ses déplacements privés. Quand il est au Touquet, il est au pied de l'immeuble où il se trouve. Donc, il y a une proximité très forte avec Emmanuel Macron. Et le scandale, c'est à la fois les faits qui ont été posés, mais l'attitude de l'Élysée, la posture de l'Élysée.
Alors justement, il faut préciser que l'Élysée, dès le 2 mai, l'a suspendu pour 2 semaines, mais a omis, et c'est là que la discussion est ouverte, a omis de saisir la justice comme il se doit dans ces cas-là.
Absolument, parce que l'exemplarité, il y a un devoir d'exemplarité quand on est à un niveau comme celui-là, puisque la loi française, le code pénal dispose en son article 40 que tout officier, toute personne toute autorité qui a connaissance d'un fait criminel ou délictuel doit le dénoncer au parquet aussitôt. Ça n'a pas été fait. Et quand c'est l'Élysée qui ne le fait pas, c'est clair que ça envoie un mauvais signal au reste des institutions. Ça envoie même un mauvais signal aux institutions. Donc, il y a à la fois la dimension de la sanction elle-même. Au regard de la gravité de ces faits, un policier ordinaire aurait été tout de suite suspendu, aurait été même sanctionné.
C'est ce que disent les syndicats de police.
Absolument. C'est un policier ordinaire aurait été tout de suite sanctionné aussi gravement. Parce que là, la sanction, au regard de la gravité de ce qu'on a vu sur les images, deux semaines sans solde pour quelqu'un comme lui, c'est une sanction, c'est une clémence. C'est une sanction. L'Élysée a fait preuve de mansuétude dans son cas. Ensuite, sur la forme, comme on a dit, la gestion de l'Élysée, l'Élysée a pensé qu'en prenant cette sanction, ça suffisait, qu'on n'allait pas savoir. Si les journalistes du Monde n'avaient pas fait le travail qu'ils ont fait, peut-être que cette affaire serait passée totalement inaperçue.
La question,
soit n'aurait pas été portée sur le plan judiciaire.
Et la question qui se pose toujours dans ces cas-là, c'est pourquoi l'affaire sort aujourd'hui alors que ça s'est passé le 1er mai? Certains se posent la question aussi. Hein.
Oui, c'est tout à fait exact. Mais nos confrères du Monde se sont défendus en disant qu'ils étaient dans un travail de vérification. Mmh. Et ils étaient dans un travail d'identification, de vérification, de recoupement. Et les enquêtes, même journalistiques, peuvent prendre du temps. Le temps judiciaire n'est pas le temps de l'actualité souvent. Les enquêtes prennent du temps. Et pour moi, le fait que ça a été révélé, même 6 semaines après, est moins grave que si ça n'avait pas été relevé. Donc c'est tout à fait on doit mettre au crédit du journalisme, c'est là aussi le crédit du journalisme pour vous qui avez écrit les délices du journalisme.
Ça c'est avec ça, Claude Angeli.
Avec Claude Angeli, qui prouve quand même qu'il y a des moments de délectation quand on sort une affaire comme celle-là avec le tournant qu'elle prend. On a du plaisir et on se dit que on fait un métier qui est d'une grande utilité pour la démocratie, pour les valeurs
Mais
sociales.
Vous avez vu comme les choses vont vite. Euphorie le lundi, inquiétude aujourd'hui.
Renversement des situations. Emmanuel Macron était quasiment sûr de passer un été tranquille, et peut-être même une année tranquille avec l'euphorie de la Coupe du Monde, sauf événement grave. Et à peine la semaine ne s'est même pas, il n'y a pas une semaine entre cette euphorie, entre cette hystérie collective de la victoire des Bleus et la situation qu'il gère aujourd'hui, qui n'est pas encore terminée. On ne sait pas quel développement ça va avoir.
C'est à suivre dans nos journaux.
Quels nouveaux éléments vont être apportés.
Alors, il faut préciser que l'Assemblée nationale a nommé une commission d'enquête, a formé une commission d'enquête déjà.
Absolument.
Que le ministre de l'Intérieur sera entendu par les députés la semaine prochaine. Donc, les choses vont vite.
Absolument. L'inspection générale de la police a été saisie pour dire comment les choses se sont passées. Moi, je pense qu'il y a d'autres éléments qu'on pourrait découvrir et qui peuvent, à mon avis, porter quand même un sérieux coup au quinquennat du président Emmanuel Macron, qui n'a pas encore connu de grande épreuve politique avant celle-là. Ça, c'est sa première grande épreuve politique. Et là, on n'a pas l'impression que l'Élysée a la maîtrise parfaite des événements. Il y a beaucoup de demi-mesures, beaucoup de tentatives, d'éléments de langage qui sont distribués, mais qui, pour l'instant, ne suffisent pas à éteindre l'incendie qui est en train de se propager.
Vous savez ce que titrait Libération hier, vendredi?
Non, pas encore.
Gare aux gorilles.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Je salue cette semaine Oumar qui nous écoute à Yaoundé, Alimou à Conakry, Guilin à Djang au Cameroun. Bonjour à Moutari à Niamey, Frédéric à Boaké, Elias à Cotonou et Gabi à Haïti.
Une semaine d'actualité.
Et partons en Afrique maintenant, Sédic Abba, en Afrique du Sud d'abord, où un hommage a été rendu à Nelson Mandela, dont on fêtait le centenaire de la naissance le 18 juillet. C'était le 18 juillet 1918, en présence donc de Barack Obama et du président sud-africain aussi, Johannesburg lundi, Lisa Fabian.
Assis aux côtés de Barack Obama, souvent penché vers son oreille, Cyril Ramaphosa n'a prononcé qu'un bref discours. À demi-mot, il a souligné sa proximité passée avec Nelson Mandela, qui voyait en lui son dauphin.
Alors que notre nation est remplie d'un espoir renouvelé,
Je ne cesse d'entendre la voix de Madiba juste à mon oreille qui me dit « Je t'envoie pour servir la nation ». Mon premier discours devant le Parlement a été inspiré par Nelson Mandela. Son esprit est parmi nous aujourd'hui.
L'année du centenaire de naissance de Nelson Mandela est sans doute une aubaine pour Cyril Ramaphosa, pressé de s'inscrire dans les pas de l'icône pour mieux rompre avec les années Zuma. Pourtant, l'héritage de l'icône de la lutte contre l'apartheid est de plus en plus critiqué, notamment par les plus jeunes, frustrés par les inégalités et la pauvreté et par les malversations de leurs dirigeants. Pour les ramener vers lui à moins d'un an des élections nationales, Cyril Ramaphosa aime rappeler qu'il a été adoubé par Nelson Mandela lui-même et qu'il est capable de faire revivre son héritage. Le président sud-africain a notamment promis une nouvelle fois de faire disparaître la corruption, comme Mandela l'aurait souhaité, a-t-il précisé.
Partons au Niger maintenant, c'est dit qu'un pays que vous connaissez particulièrement bien, avec l'expulsion brutale par l'Algérie de quelques 400 migrants il y a quelques jours, migrants abandonnés à la frontière, Léa Lisa Westerhoff.
L'Organisation internationale pour les migrations est formelle. Les 391 migrants ouest-africains ont été, pour ainsi dire, abandonnés à la frontière avec le Niger. Avec rien sur eux, ou presque, un peu d'argent pour certains d'entre eux, ils ont été obligés de traverser la frontière à pied, les femmes enceintes et les enfants aussi. Des migrants qui racontent que leurs téléphones ont également été confisqués et les conditions d'expulsion difficiles avec peu de nourriture et d'eau. Vendredi, ils ont donc dû marcher une quinzaine de kilomètres encore dans le désert nigérien sous 45 degrés avant d'être secourus. Le groupe, composé de 16 nationalités mais avec une majorité de Guinéens, est désormais pris en charge par l'OIM au centre de transit à Arlit d'abord avant d'être envoyé vers Agadez et ensuite leur pays d'origine. Mais selon l'OIM, à peine arrivés au Niger, 9 migrants ont déjà choisi de reprendre la route clandestine vers l'Algérie.
Le Niger, manifestement terre d'accueil et de transit de ces migrants. Écoutez le reportage de Johanna Holstein à Niamey.
55 femmes et enfants sont accueillis dans cette maison de transit. Ils sont originaires de Somalie et d'Érythrée. Ils viennent tout juste d'être évacués de la Libye. Pas de barreaux aux fenêtres ici, on veut les aider à se reconstruire. La plupart ont connu l'horreur sur leur parcours, comme le raconte cette psychologue du Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés, Marzia Vigliaroni.
J'étais partie avec les rêves d'une fille de 17-18 ans. Elle s'est retrouvée le long du parcours à être violée par plusieurs hommes. Elle est tombée enceinte et lors de sa grossesse, elle a été violée à nouveau. Elle s'est retrouvée à tenir dans ses bras sa meilleure amie qui était partie avec elle, qui venait d'être violée et tuée.
L'année dernière, quelques 1500 personnes ont été évacuées de Libye vers le Niger. 10% ont été transférées en France, en Italie, en Suède. Mais 50 000 candidats à l'asile attendent toujours en Libye. Les Nations Unies appellent à accélérer les réinstallations de ces réfugiés en Europe. Il faut aussi augmenter le soutien financier au Niger, selon le président du Parlement européen, Antonio Tajani.
Il faut avoir au moins 6 milliards comme pour la Turquie quand on a bloqué l'immigration de ce pays-là du Moyen-Orient. Il faut faire la même chose ici.
Johanna Holstein, Niamey, RFI.
Alors, Cédric, parlons de ce pays que vous connaissez bien, le Niger, terre d'accueil et de transit de ces migrants désormais.
Oui, le Niger.
Qui joue un rôle clé.
Absolument, parce que le Niger a une position stratégique. Il est à cheval entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, le Maghreb, parce que le Niger a deux frontières, une frontière avec l'Algérie et une autre frontière avec la Libye, d'où passent les migrants pour remonter en Europe par l'Italie ou par la Tunisie. C'est clair que aujourd'hui, dans la lutte contre l'immigration clandestine, le Niger a un rôle important à jouer. Mais il serait erroné de penser que le Niger à lui tout seul peut faire quelque chose. Parce que le Niger est un pays de transit. Il y a les pays de départ qui sont, on a vu par exemple pour les migrants, à part les Soudanais, les Sud-Soudanais et les Érythréens, la plupart des migrants viennent du Nigeria, viennent de la Côte d'Ivoire, viennent de la Gambie. Et donc si on n'intègre pas les pays de départ, c'est-à-dire les pays d'où partent les migrants, les pays de transit comme le Niger et d'autres pays, l'Algérie, la Libye, la Tunisie, et les pays d'arrivée, si on ne, si on ne, on ne choisit pas une approche intégrée, une approche globale, c'est clair que les solutions, mettre le couteau sous la gorge du Niger et l'obliger à faire la police à Agadez, ça ne suffira pas. Augmenter l'argent ne suffira pas, mais il faut une stratégie globale qui intègre les différents échelons, qui intègre tous les pays concernés. C'est à cette condition seulement que la solution pourra être trouvée. On a entendu dans l'élément dire qu'on va augmenter l'argent qu'on va donner au Niger, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Si on n'aime pas les pays d'où partent les migrants et les pays d'arrivée, c'est simplement cette stratégie. Et puis, il y a dans cette affaire la position de l'Algérie qui est une position complètement lamentable. L'Algérie est le grand frère.
Ses réfugiés abandonné. À la
frontière. C'est inhumain d'avoir une attitude, mais ça ne grandit pas le grand frère algérien, puisque l'Algérie se présente comme le grand frère dans cette sous-région. C'est le pays qui a l'armée la plus puissante de la sous-région. C'est le pays qui a les ressources financières les plus importantes de la sous-région. Avoir cette attitude de déverser des migrants à la frontière avec le Niger, c'est à la fois inhumain, mais c'est à la fois contre-productif au plan politique. On se demande où est passée l'Algérie tiers-mondiste, qui était la capitale de tous les mouvements de libération africains. C'est pas cette Algérie-là.
Cette époque est révolue, définitivement.
Apparemment, c'était oui, totalement.
Donc, révolue. Le Niger, face à cette question des migrants, le Niger face aussi à la question du terrorisme. Le Niger qui préside en ce moment le G5 Sahel. Rappelons que ce G5 a été constitué pour lutter contre le terrorisme avec le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie. Donc, un autre défi de taille.
Absolument.
Pour le Niger.
Un défi immense. Aujourd'hui, le pays consacre à peu près 15% de son produit intérieur brut à la lutte contre le terrorisme, à la défense, à l'acquisition des moyens militaires et des moyens de sécurité, au recrutement des effectifs, à la formation. C'est clair que ce défi-là est immense pour le pays, à la fois en termes de tribus humains, puisque les attentats, les différentes actions contre les militaires, que ce soit du côté de la frontière nord-ouest avec le Mali ou du côté de la frontière sud-est avec le Nigeria et Boko Haram, c'est clair que le pays paye aujourd'hui un lourd tribut, mais ça a aussi des conséquences sur le développement, parce que cet argent qui est affecté à la lutte contre le terrorisme, il est pris au détriment d'autres services essentiels, de l'école, au détriment des infrastructures, etc. Si le pays ne met pas 15% de son PIB dans ses défenses, dans la lutte contre l'insécurité, il aurait pu les consacrer au développement. Et aujourd'hui, vous savez que les défis du développement sont immenses au Niger.
D'ailleurs, je ne trahis pas de secret en disant que vous êtes en train de faire une enquête qui sera publiée à la fin de l'année sous forme de livre sur Boko Haram, la lutte contre Boko Haram.
Parce que c'est un phénomène aujourd'hui qui menace la stabilité de la région est du Niger, la région de Diffa. Boko Haram mène des incursions et il était intéressant pour moi, après avoir fait une série pour le journal Le Monde, de traduire ces éléments-là en ouvrage pour la prospérité, pour que les gens puissent d'abord savoir. Parce que le constat, c'est que souvent, il y a une lecture un peu réductrice de ce que Boko Haram. On dit que Boko Haram, ça veut dire en Hausa, l'école est un péché. Mm-hmm. Or, au-delà de quand Boko Haram dit l'école est un péché, Boko Haram ne dit pas que l'école. Ça rejette la démocratie occidentale telle qu'on la pratique. Ça implique aussi, pour Boko Haram, c'est l'école, là, dans sa forme actuelle, l'école occidentale, qui a amené la corruption. Donc, il faut expliquer qui sont ces gens de Boko Haram, quel est leur projet politique, comment on les voit et pourquoi aussi la lutte contre eux n'a pas encore marché. Parce que le résultat aujourd'hui, c'est que à mesure qu'on continue à engager des moyens contre Boko Haram continue à recruter, continue à attaquer. Donc c'est tout. J'essaie avec beaucoup de modestie de fournir des clés pour que les gens comprennent.
Alors, vous reviendrez en parler.
Avec grand plaisir.
Jours en Afrique.
Partons pour le Mali pour conclure ce voyage africain et cette émission en quelque sorte. Sédic, avec la campagne électorale qui se poursuit avant le scrutin du 29 juillet prochain, les 24 candidats sillonnent le pays et mènent aussi campagne à la télévision à Bamako. Serge Daniel.
Le Comité national de l'égal accès aux médias d'État et l'Office de radio et télévision du Mali présente l'élection présidentielle du 29 juillet 2018.
En temps normal, à tort ou à raison, les médias publics au Mali sont accusés d'être à la solde du pouvoir. Mais en période de campagne électorale, les 24 candidats sont sur le même pied d'égalité.
Message du candidat Aliou Diallo.
Chaque candidat a 10 minutes pour exposer son projet pour le Mali, 5 minutes pour le message de campagne et un tirage au sort pour diffuser un message de meeting de chaque candidat.
Message du candidat Amadou Touré.
Chers compatriotes, au moment où l'heure est grave,
la campagne se déroule également sur les médias privés. 90 minutes pour convaincre est une émission de Africable, une télévision privée malienne très suivie ici et à l'extérieur. Là, par exemple, c'est en langue locale, Bambara, que l'ancien premier ministre malien Modibo Sidibé tente de convaincre les électeurs.
La démocratie en action sur le petit écran au Mali, ça vous inspire un commentaire?
Oui, là, c'est bien que les candidats aient un accès égal aux médias publics, parce que très souvent en Afrique, il y a une confusion entre les médias publics et les médias gouvernementaux. Les pouvoirs publics, notamment les gouvernements, s'accaparent les médias. On parle que des activités du président, du premier ministre, souvent de leur épouse et des ministres. On ne parle pas de préoccupations du peuple. C'est bien que à l'occasion de cette campagne électorale, que tous les candidats aient pu accéder aux médias publics, qu'il ait un monitoring, qu'il ait le même temps d'accès. Mais dans le cas du Mali, et très souvent, c'est qu'il y a 24 candidats. 24 candidats, ça fait beaucoup pour une élection présidentielle. Et du coup, il faut beaucoup d'expertise arithmétique pour pouvoir gérer tout cela. Mais l'exercice est tout à fait intéressant. Et moi, je pense que au-delà de ça, c'est aussi, comme on l'a vu dans l'élément, le fait que on parle beaucoup en langue nationale. Dans l'électorat, souvent en Afrique, 75 à 80% des gens qui sont électeurs ne sont pas forcément des gens qui sont allés à l'école occidentale, qui parlent français. Le fait qu'une partie de la campagne se déroule en langue locale est une excellente chose pour que les candidats disent aux Maliens ce qu'ils ont l'intention de faire.
Cédric Voulier, on va terminer avec ça, cette émission. Revenir sur l'arrestation de 4 soldats impliqués dans l'exécution sommaire de 2 femmes et leurs enfants dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le nord du Cameroun.
C'est ça. L'événement s'est passé dans l'extrême nord du Cameroun et on a vu dans cette vidéo des soldats camerounais amener derrière le village des femmes et des enfants. Il y a une femme qui a été exécutée alors qu'elle avait son fils sur le dos. Ça veut dire que le fils a été exécuté avec elle, la maman a été exécutée avec son fils sur le dos. Et les images qu'on a vues sont absolument bouleversantes puisque les militaires se sont approchés pour achever à bout portant les personnes. Je pense que l'armée camerounaise doit sévir et les armées africaines, je pense, au-delà du Cameroun, qui sont engagées dans la lutte contre le terrorisme, doivent inculquer à leurs soldats les questions de respect des droits de l'homme, parce qu'on ne gagne pas la lutte contre le terrorisme en faisant du terrorisme d'État.
Merci Sedi Kaba, vous allez devoir écrire maintenant votre livre, hein, parce qu'on a annoncé sa parution bientôt.
Avec grand plaisir.
Sur Boko Haram, sur la lutte contre Boko Haram.
De toute façon, j'aurai besoin de vos conseils pour pouvoir aller vite.
Je ne sais pas si je serai à la hauteur, mais en tout cas, vous viendrez en parler de cette enquête qui sont toujours passionnantes d'évidence. Merci Sedi Kaba. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous parlerons philosophie, retour aux sources en quelque sorte. Et nous parlerons de Søren Kierkegaard, le penseur danois, avec notre invité Michel Forget, professeur de philosophie, à l'occasion de la publication des grands textes du philosophe théologien dans la collection La Pléiade chez Gallimard, demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.